50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Ce mardi, jackpot record Euromillion de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Vous écoutez Europe 1. Il est 16h, le flash avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Le conflit entre l'Iran et Israël au cœur du G7 qui s'est ouvert hier soir, les dirigeants réunis au Canada vont tenter d'envoyer un message commun. Au moins 11 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes iraniennes sur plusieurs villes d'Israël. Le ministre de la Défense israélien prévient que Téhéran paiera le prix de ces frappes sur les civils. Israël qui appelle les habitants à évacuer un arrondissement entier de la capitale iranienne. Israël a le droit de se défendre quand son existence est menacée, assure François Bayrou, le Premier ministre, qui considère que la menace iranienne sur Israël est immédiate et vitale. Téhéran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël de vouloir se doter de l'arme atomique. Il faut à tout prix empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, prévient le député Ensemble pour la République, Sylvain Maillard, sur Europe 1 et CNews. Hommage national ce matin aux deux pompiers volontaires morts la semaine dernière à Laon dans l'Aisne. Maxime Prudhomme et Tanguy Mozart avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. Ils ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Bruno Retailleau a loué leur courage et leur civisme engagé. Les pompiers volontaires concilient souvent leur engagement avec une autre activité professionnelle. Ils étaient plus de 197 000 en France fin 2021, soit 78% des effectifs de sapeurs-pompiers. C'était en juillet 2020 à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. La gendarme Mélanie Lemay était fauchée par un chauffard après un refus d'obtempérer. Le suspect, un homme âgé de 31 ans, est jugé aujourd'hui pour violence ayant entraîné la mort et pour conduite sans permis et sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'ouverture aujourd'hui du salon du Bourget, le plus ancien et le plus grand rendez-vous aérospatial au monde. Cette édition est marquée par la fermeture de stands israéliens qui présentent des armes offensives. Décision du gouvernement français. La situation à Gaza, moralement inacceptable, impose de marquer réprobation et distance, a assuré François Bayrou après avoir inauguré le salon. Le Premier ministre qui a proposé aux partenaires sociaux l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décideraient de rester au travail, une partie de leur retraite leur serait versée en plus de leur salaire. Je suis persuadée que tout le monde peut y gagner, assure François Bayrou, qui se dit prêt à accorder quelques jours de plus aux syndicats et aux patronats pour qu'ils s'accordent avant la fin du conclave sur les retraites. Plus de 530 000 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures ce matin sur la philosophie, première épreuve du baccalauréat. Parmi les sujets, la vérité est-elle toujours convaincante ou encore sommes-nous libres en toutes circonstances ? Place demain aux épreuves écrites de spécialité. Et puis les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont placés en alerte orange face au risque de feux de forêt. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement liés à une imprudence.
Europe 1.
Il est 16h03 sur Europe 1. On marche sur la tête, c'est maintenant.
Merci beaucoup Émilie. On vous retrouve tout à l'heure à 16h30 si j'ai bien compris. Oui, à tout à l'heure.
Europe 1, 16h-18h.
On marche sur la tête, Jean-Marc Morandini.
On marche sur la tête puisque Cyril n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui. Donc voilà, je remplace Cyril Hanouna jusqu'à 18h. On va avoir l'occasion de parler de beaucoup de sujets et en particulier de télévision. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses du côté de la télévision puisque vous le savez peut-être, on a appris qu'Anne-Sophie Lapix allait quitter France 2 pour rejoindre M6. On va parler de tout ça dans un instant. Je vous présente mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 18h. Il y a Fabien Lecoeuvre. Bonjour Fabien.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, spécialiste des stars et de la chanson française. Beaucoup de choses à dire également. Mathias Leboeuf, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Journaliste, philosophe, vous allez élever le débat.
Je vais tenter de le faire.
Ouais, ça changera de vendredi. Sarah Saman. Bonjour.
Ah bah voilà, ça commence.
Ça commence fort.
Exactement. Merci d'être avec nous. Et puis Gauthier Lebret, bonjour.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous.
Également, merci d'être avec nous. Fabien Lecoeuvre, d'abord, je voudrais qu'on commence avec cette information qui est tombée tout à l'heure. C'est Anne-Sophie Lapix qui a décidé de quitter France 2 pour rejoindre M6 où elle va proposer un grand entretien dominical avec une personnalité qui fait l'actualité. C'est ce qui est indiqué. C'est une surprise pour vous ?
Non, ça fait partie d'une carrière, je crois surtout. Puis ça fait déjà plusieurs mois qu'on parle de Anne-Sophie Lapix et qui
avec un X.
J'avais oublié le X. Pardonne-moi. Ouais, ouais. Sophie Lapix et effectivement, on sentait qu'il y avait déjà des allers-retours, des rumeurs. Et finalement, pour cette rumeur, c'est confirmé, voilà, en ce jour. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est bien. Mais ça fait partie d'une carrière. C'est une jeune journaliste. Elle est à la moitié peut-être.
Enfin, ça y est.
Non, mais en tout cas, ça fait partie des carrières, une fois de plus. On peut changer d'organisation et de direction dans sa carrière, et puis on a envie aussi de se renouveler. Ça fait quand même quelques années qu'elle présente.
Elle change parce qu'elle a été écartée du 20h. C'est quand même le début de l'information.
Oui.
Elle change parce qu'elle a été écartée du 20h parce que Emmanuel Macron ne l'apprécie pas tellement.
On le savait.
Et donc, fermer sa porte au service public, ou du moins à Anne-Sophie Lapix, parce qu'il était sur les océans avec Léa Salamé et Hugo Clément la semaine dernière. Ouais. Mais il n'a pas accordé énormément d'entretien à Anne-Sophie Lapix, et notamment, elle a été recalée du débat de l'élection présidentielle la dernière fois.
Parce qu'elle le met en difficulté, contrairement à d'autres. C'est pas tapis rouge quand on arrive devant elle.
Ah, ça, c'est sûr.
Donc, c'est aussi pour ça qu'elle a été écartée.
T'as raison, bien sûr.
Julien Pichelet nous a rejoint. Bonjour, Julien.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste ici à Europe 1 et vous êtes spécialiste des médias. D'abord, ça vous a surpris, vous, ce matin, spécialiste des médias?
J'étais avec mes collègues de Culture Média et quand la nouvelle est tombée à 11h57, on a été doublement surpris. Déjà, effectivement, on s'attendait pas forcément à la voir sur M6. On pouvait s'attendre à la voir débarquer sur une chaîne info. Pourquoi pas? Et aussi parce que ça nous a surpris, parce qu'en général, il y a toujours une rumeur qui bruisse un petit peu avant qu'une nouvelle tombe.
Là, il n'y a rien eu.
Avant qu'un communiqué ne tombe, parce que c'est M6 qui envoie un communiqué à 11h57 précisément. Et là, effectivement, Jean-Marc, il n'y a rien eu du tout. Aucune fuite, ni rien du tout. Donc, on a été doublement surpris par cette nouvelle.
Vous pensez qu'elle avait envie de partir de France 2, parce qu'elle a pris comme une claque, peut-être, le fait d'être écartée par Delphine Ernotte du 20h?
C'est difficile de prendre la décision de quitter le journal télévisé de 20h, surtout quand on l'anime, quand on le pilote depuis 7 ans, comme c'est son cas.
Surtout quand c'est pas sa 2017. Décision.
Voilà, mais je pense qu'elle serait restée, effectivement, encore une année de plus, si elle avait eu sans doute la possibilité.
Peut-être même 10 ans de plus.
Peut-être même 10 ans de plus. On se souvient que son prédécesseur, David Pujadas, est resté, lui, entre 2001 et 2017, 16 ans à ce poste, et certains ont fait encore plus long, mais c'est une info dont on parle avec enthousiasme, parce que c'est rare de voir un changement à la tête du JT de 20h. Depuis le début des années 2000, il y a eu 3 titulaires aux 20h en semaine sur France 2. Claude Sérillon, tout début des années 2000. Pujadas arrive en 2001. Lapix en 2017. 3 personnes seulement en 25 ans.
Et tous se font virer.
Titulaires.
Il n'y en a aucun qui part volontairement. Tous se font virer.
David Pujadas aussi.
Il y a la manière dont
ils
virent les gens aussi.
C'est ça.
La manière dont ils virent les gens. Alors, c'était Claire Chazal, c'était sur TF1, et elle racontait qu'on l'avait virée brutalement, comme ça, sans préavis. Elle apprend ça de façon extrêmement brute.
En général, on l'apprend dans la presse. Quand on est viré.
Oui,
ça arrive souvent.
On l'apprend dans la presse. Donc il y a une brutalité dans la manière dont les départs sont orchestrés souvent au JT, dans tous les JT d'ailleurs.
Après, c'est souvent des problèmes d'audience. Claire Chazal, c'est un problème d'audience.
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'audience.
Ah bah oui, Julien.
Ça peut être aussi des problèmes politiques. Hein,
ouais, parfois, il y a aussi un problème d'audience. Je pense que si elle cartonnait par rapport à TF1, je pense qu'il aurait gardé.
C'est vrai qu'il y avait souvent 1 million, voire même beaucoup plus, parfois d'écart entre TF1 et France 2. Donc les journaux de France 2, d'ailleurs, en général, sont à la traîne par rapport à TF1.
Pourquoi?
C'est pour ça que,
d'après vous,
déjà le format d'une heure, 20h, 21h, ouais, le journal de France 2, c'est vrai qu'on note quand même un essoufflement de l'audience à partir de 20h30. Il faut y aller quand même pour se taper un journal, excusez-moi, mais pour se taper un journal d'une heure le soir entre 20h et 21h avec des sujets qui font parfois 10 minutes, effectivement.
Après, Gauthier, le soir, il fait 2h, hein, et il faut, faut se le taper aussi. Hein.
Je vous remercie.
C'est pas la même rythmique.
Gauthier fait de l'audience.
Oui,
non,
déjà.
Mais ça n'a rien à voir. C'est une chaîne info versus du 20h de France 2.
Là, il y a moins de respiration. C'est extrêmement carré, cadré. Et donc, effectivement, pendant une heure, c'est peut-être un peu long.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que c'est un peu chiant de faire le 20h? Attends, honnêtement, moi, si on propose d'échanger mon émission sur CNews avec le 20h, j'en veux pas.
Effectivement.
Le 20h, c'est super cadré. Vous avez un prompteur. Vous êtes obligé de lire votre prompteur.
Si Léa Salamé n'a pas encore accepté le 20h, on verra son choix.
C'est un des noms qui circule pour la scène Sophie Lapix.
C'est parce qu'elle dit « je m'amuse beaucoup plus dans Quelle Époque », même si on lui propose maintenant de cumuler visiblement 20h et Quelle Époque, que lors d'un 20h, ou alors vous êtes rédacteur en chef de votre journal, mais vous n'êtes pas seul à décider, donc il y a une collégialité des rédacteurs en chef. Et puis après, effectivement, un 20h, c'est intéressant quand moi, pour en avoir parlé
avec
Laurence Ferrari, c'est intéressant au moment d'une présidentielle. Bah, oui. C'est passionnant même. Vous pouvez arbitrer un débat de second tour, donc vous entrez dans l'histoire.
Ça, à mon avis, c'est chiant. Excusez-moi, arbitrer un débat de second tour.
Je pense que c'est passionnant.
Ah non, mais moi je pense que non, parce que c'est super cadré.
Non, mais pour l'histoire.
C'est à l'oreillette. C'est à l'oreillette surtout.
Non, mais c'est pour l'histoire. Vous êtes dans les archivina à vie après ça.
Bon, et c'est un objectif dans votre vie.
Ça, c'est un objectif.
Le vrai trait, d'être dans les archivina à vie.
Non, mais c'est un moment d'histoire. Vous vous souvenez du mois président, par exemple, parce que c'était en réponse à une question de Laurence Lanafor, célèbre de François Hollande. Quand vous aimez la politique, vous aimez ces moments-là qui restent. Et un débat de second tour, quoi qu'on en pense, ça reste. Donc, je pense que c'est intéressant.
C'est chiant à faire, je maintiens. Moi.
C'est intéressant pour une année présidentielle. Et d'ailleurs, Anne-Sophie Lapix voulait rester jusqu'en 2027 au moins, justement, parce qu'à 20h, c'est encore plus intéressant au moment de la présidentielle.
Ce qui était intéressant, c'est le format d'une heure. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très intéressant ce format d'une heure, mais à l'approche de la présidentielle, c'était intéressant parce que je pense que la dernière demi-heure aurait été une grande interview politique à chaque fois. La seule question, c'est est-ce que c'est elle qui allait faire l'interview politique ? Parce que souvent, c'est Caroline Roux.
Il y a Caroline Roux, effectivement.
Ils mettent Caroline Roux dans la dernière demi-heure pour remplacer Anne-Sophie Lapix, ce qui est d'ailleurs une claque quand même pour Anne-Sophie Lapix. Il faut bien le dire.
C'est pas terrible.
Mais je pense que depuis quelques mois, quelques années, les 20h, les journaux de 20h ont perdu de leur superbe. Parce que les chaînes d'infos sont arrivées. Bien et sûr. Les chaînes d'infos, c'est d'énormes audiences.
Non, c'est pas. Excusez-moi, je vais pas casser les chaînes d'infos, mais
tout cumulé.
Pascal Praud, qui est la meilleure audience de toutes les chaînes d'infos, il fait 1 million. Voilà, il fait 1 million. Un journal de TF1, c'est quand même 5-6 millions.
Je prends pas les journaux à 20h. Les chaînes d'infos. L'avantage qu'elles ont, c'est que les infos sont toutes les demi-heures, quart d'heure, demi-heure. Donc les gens, quand ils rentrent du travail, ils allument tout de suite, ils regardent plus les 20h.
Ils savent tout.
C'est un changement de comportement.
Ça, c'est vrai.
Et ce changement de comportement a fait que les 20h de TF1, de France 2, les traditionnels journaux de 20h, n'ont plus leur superbe, parce que les gens, ils ont les infos dans le journal de 20h de TF1 et de France 2.
Fabien, si on dit même la vérité, quand ils allument la chaîne info, ils ont déjà l'info, parce que ce qui a changé les choses, c'est pas tant les chaînes info, c'est le portable.
Absolument.
Et c'est préciser. C'est pourquoi sur les chaînes info, maintenant, ce qu'on vient chercher, c'est de l'humeur, c'est un angle particulier, c'est une ambiance particulière, un débat.
Voilà.
Et c'est pourquoi, à mon avis, CNews est devant LCI
loin
et
devant.
FM.
On va voir Gauthier Le Bret ce soir. Forcément, c'est ça. C'est
ça. Merci.
Jean-Marc Morandini à 10h30.
Quelqu'un qui va être dans l'histoire, qui va être dans les archives de Mila. Forcément, c'est ça qu'on veut. Mathias Lebeuf, vous voulez parler, vous êtes réveillé, mais c'est trop tard, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, à tout de suite.
16h, 18h.
Jean-Marc Morandini sur Europe 1. La 6e édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca. Un livre parfaitement en phase avec les valeurs humanistes défendues par le prix.
L'écoute, l'attention, la bienveillance, la solidarité. Là, je pense que c'est ce qui met en lumière la plus belle part de notre humanité. C'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive. Je suis du coup encore plus honorée que ce soit ces valeurs-là qui soient exaltées dans ce prix.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF. Disponible dès maintenant en librairie.
Ford Pro.
Allez patron, j'y vais.
Attendez.
Oui.
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon, vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-Transit Custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696 € sur le nouveau e-Transit Custom 100% électrique avec la prime CEE. Ford Pro. Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe, quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison ?
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79 € le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, 16h, 18h.
On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini.
On marche sur la tête sur Europe 1. Cyril Hanouna sera de retour très bientôt, bien évidemment. Je le remplace exceptionnellement aujourd'hui. On parle de télé. Alors ça tombe bien parce que je connais un petit peu la télé, donc c'est plutôt pas mal. Et puis Julien Pichenet nous a rejoint également, spécialiste télé d'Europe 1, parce qu'il se passe plein de choses du côté de la télé. On a appris qu'Anne-Sophie Lapix allait quitter France 2. D'ailleurs, son dernier journal a été avancé parce que ça devait être en juillet.
Mi-juillet,
Et finalement, ça va être le 26 juin, son dernier journal de sur France 2.
Maintenant qu'on sait qu'elle va partir, c'est sûr que bon, c'est un peu compliqué de passer jusqu'à mi-juillet.
Au revoir président, comme dit la pub. Il y a Laurent Delahousse également. Il y a la rumeur, on va en parler tout à l'heure, la rumeur qui court, qui serait écartée du week-end. Donc ça fait beaucoup de choses du côté de France 2. Et alors M6, commençons Julien par parler d'M6 quand même, parce que ça bouge beaucoup M6. Alors ils ont recruté un petit mec qui s'appelle comment, Cyril
Anou,
je sais pas quoi. Anoula,
c'est vrai, déjà, je connais
dans le groupe M6.
C'est vrai que c'est un gros mercato quand même pour M6, dont les audiences audiences du groupe en général stagnaient un petit peu ces dernières années. Il y a eu la page Stéphane Plaza qu'il a fallu tourner, hein. C'était quand même un animateur star de la chaîne. Et puis certains concepts peut-être qui s'essoufflent un petit peu, on le voit, mais là il se passe quand même beaucoup de choses sur cette chaîne. Cyril Hanouna évidemment qui arrive dans le groupe et qui sera avec Tout Beau Tout Neuf sur W9 à la rentrée. Olivier Mine, on sait pas encore exactement ce qu'il va faire, mais c'est une belle recrue peut-être de
France 2 encore, hein. C'est-à-dire ils ont recruté Anne Sophie Lapix sur France 2, ouais. Olivier Mine sur France 2.
A priori Laurent Delahousse devra arriver sur M6 si ça continue comme ça, on aura la grille de France 2 sur M6 à la saison prochaine. Mais effectivement c'est un gros mercato. Ajouté à tout ça finalement le foot que récupère M6, on a vu 11,5 millions de téléspectateurs pour la Ligue des Champions, le Mondial 2026, 2030, entre autres grands événements sportifs qui vont être sur M6 bientôt. C'est vrai qu'il y a une tentative de renouveler un petit peu la chaîne et de relancer cette chaîne dans les audiences.
Mais il faut expliquer que c'est aussi parce qu'il y a un changement de direction à M6. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle vague du côté de M6.
La fin de la page Taverneau, hein, qui maintenant est ailleurs, à la branche LFP foot, hein, de la Ligue de football professionnel. Donc effectivement, quand il y a une nouvelle direction, il faut évidemment du sang neuf, hein, et là on le voit, mais c'est assez intriguant. En tout cas, c'est un très très gros mercato. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu un mercato comme ça en fin de saison. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose.
Par exemple,
qu'est-ce que va faire Olivier Mine sur M6 à la rentrée?
Des variétés, c'est ça. Ils ont dit du divertissement, oui, mais on voit pas trop ce qu'ils pourraient faire.
Exactement. Anne-Sophie Lapix, on n'a pas encore de détails sur ce qu'elle va faire.
Alors,
elle arrive dans le groupe RTL.
C'était l'humour de Sarah Salman. Hein, si vous nous rejoignez, bon, bienvenue sur Rire et Chanson.
Elle sera à la fois à la radio dans le groupe M6, mais aussi donc elle aura une émission politique. Elle va retrouver ses premières amours.
Ben oui, ça va être Dimanche Plus.
Dimanche Plus,
ça va être ce que faisait l'émission
à l'époque sur Canal Plus.
Exactement. Voilà, c'était d'abord Laurence Ferrari et puis Anne-Sophie Lapix. D'ailleurs, Anne-Sophie Lapix était aussi passée derrière Laurence Ferrari à 7 à 8 sur TF1. Donc on voit très bien vers quoi ça va tendre. C'est voilà.
Et c'est pas dans l'ADN. C'est quand même pas très dans l'ADN d'M6.
Oui,
ça.
Mais rendez-vous politique le dimanche après-midi. Alors on n'a pas l'heure, mais c'est vrai que ça sera intéressant.
Où autrefois il y avait des émissions de Stéphane Plaza, Recherche Appartement, etc. Est-ce que le public d'M6 est prêt à voir ça? Exactement. C'est un risque quand même.
Sarah Salman, c'est pas le même public pour vous?
Stéphane Plaza, j'ai jamais regardé ses émissions, mais a priori les émissions.
D'ailleurs, elle a pas la télé, Sarah.
Non, mais j'ai découvert ses émissions quand il y a eu les articles sur son procès. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait.
C'est une intervention intéressante.
Mais je vous remercie, Gauthier. Mais au moins, moi, j'interviens, contrairement à vous.
Non, lui dites pas ça, parce que déjà, quand on entend que lui, c'est bon.
Non, mais c'est sûr que c'est pas le même public. Et la politique, un dimanche après-midi, moi, j'aurais plutôt mis le dimanche soir ou un autre jour. Mais en plein après-midi, non, j'aurais pas mis ça.
C'est pas en plein après-midi. À mon avis, ça va être vers midi, 13h. Ça va être dans ces eaux-là, je pense. Mathias Lebeuf, qu'on a réveillé.
Oui, moi je trouve que
essayez de parler dans le micro si c'est pas mal plutôt qu'à côté.
C'est une bonne chose. Voilà. Elle a quand même passé huit ans au JT de France 2. Donc je trouve que moi les présentateurs restent trop longtemps. 15 ans sur un siège. Non, mais.
Au JT,
oui. Et notamment sur les 20h, c'est long, quoi. Donc 8 ans, moi, je trouve ça pas mal.
Ouais, PPDA, ça a duré combien de temps?
C'était trop long.
C'était une autre époque.
Faut changer. 8 ans, même déjà, ça me paraît. Moi, je sais pas, 8 ans, je resterai pas 8 ans sur le même siège à faire la même chose.
En même temps, vous laisserez pas 8 ans.
C'est pas faux. Mais voilà, quoi. Je trouve ça bien qu'elle change et qu'il y ait du renouveau, même sur France 2.
Mais Julien, il y a quelque chose qui a changé. On parlait de l'époque de PPDA, par exemple, ou de Claire Chazal, c'était des vraies stars. Mmh. Aujourd'hui, quand même, les présentateurs des 20h, c'est plus vraiment des stars.
Il y a plus de chaînes.
Gilles Boulot, c'est pas une star.
Effectivement. Ça, c'est sûr.
C'est un bon professionnel, un très bon professionnel. Ouais. Hein, c'est pas négatif, ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est pas une star, on l'imagine pas vraiment faire la une de Paris Match.
Vous avez raison, la star, aujourd'hui, c'est peut-être le concept, l'heure, finalement. Le 20h de TF1 est peut-être plus fort que les incarnants. Bon, il y avait des animateurs un peu anonymes dans les années 70-80, mais on avait Mourouzi, on avait...
Mais c'était pas anonyme, Mourouzi.
C'était des stars gigantesques du journalisme qui étaient connus de tous les Français. Ça s'est perdu aussi avec un petit peu l'effritement des audiences.
Non, parce qu'il y a d'autres stars. Maintenant, il y a des stars comme Cyril Hanouna, Pascal Praud, et il y a d'autres stars, finalement.
Parce que je crois que les chaînes d'infos, avec leur rythme et l'éditorialisation de l'information, ont basculé. Les stars aujourd'hui, la personnification, sont sur les chaînes d'infos.
C'est pas vrai.
Sur l'information.
Excusez-moi, allez voir BFM.
Darius Rojemin,
c'est Darius.
L'incarnation de l'information.
Apolline de Malherbe chez BFM.
Oui, et puis
Olivier Truchot, Alain Marchal.
Oui, non, mais il y a quand même, et justement, l'incarnation de l'information est passée sur les chaînes d'infos. Du coup, les JT à l'ancienne ont un peu été évidés de leur.
C'est pas le cas sur toutes les chaînes d'infos et à toutes les heures. Moi, je suis d'accord avec Jean-Marc. On vient de citer.
Appelez-moi Jean-Marc.
Les.
Oui, non, vous avez hésité, c'est pour ça que je voulais vous rappeler mon prénom.
Non, j'ai pas hésité.
Je vous en prie.
Je suis d'accord avec vous parce que sur BFM et LCI, c'est très limité les incarnations fortes. Sur ces chaînes, c'est l'actualité, la star, l'international sur LCI, l'actualité, l'événement sur BFM. Mais les incarnations ne sont pas aussi puissantes que sur une autre chaîne info. Voilà.
Fabien, Julien.
C'est moi. Alors que moi, j'aime bon.
Fabien, il est juste à côté. Julien, il y a quand même Laurent de la Housse qui peut être considéré encore comme une vedette.
Star,
je ne sais pas, mais vedette en tout cas. C'est une vraie vedette. Laurent de la Housse. Alors, il paraît que lui aussi, il est sur un siège éjectable.
C'est vrai qu'il est omniprésent depuis 2007. Lui, hein. Il est depuis 2007 sur les antennes de France Télévisions pour présenter le journal. Et en plus, il est omniprésent le week-end. Hein. On le voit à midi, on le voit le soir, on le voit à 20h30. Enfin, il est vraiment très, très présent.
Et c'est le Parisien qui a sorti ça ce matin.
C'est le Parisien, effectivement, qui fait un petit point. Donc, il y a la piste Léa Salamé qui pourrait éventuellement remplacer. Tout est au conditionnel. Remplacer peut-être soit Anne-Sophie Lapix, soit Laurent de la Housse. Mais Laurent de la Housse, c'est une rumeur pour l'instant. Hein. Lui dément.
Et que dit la rumeur qui serait écartée.
Que la direction de France Télévisions chercherait à tourner la
Ils n'arrivent déjà même pas à remplacer Anne-Sophie Lapix.
À faire table rase et à changer toute l'équipe, à faire un tir groupé, à changer tout le monde.
Ça marche le week-end, Laurent de la Housse.
Il y a toujours 1,5 million à 2 millions. Hein, franchement,
les téléspectateurs sont habitués à Laurent de la Housse. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent.
Oui, mais ils sont habitués à Anne-Sophie Lapix aussi.
Moi, en 2007. Elle est là depuis 2017. Il est là depuis
2007. Mais 2007, vous vous rendez compte 20 ans, quoi.
La différence de Laurent de la Housse, ça me paraît énorme.
Ça me paraît ennuyeux, voir toujours les mêmes programmes, les mêmes têtes, les mêmes formats.
Pour les téléspectateurs.
Mathias, bonjour, je suis là. Bonjour, Jean-Marc Morandini, enchanté. On est sur Europe 1, bienvenue. Juste à un moment donné, quand même, il a quelque chose de particulier, Laurent de la Housse, c'est qu'il fait une partie magazine. Ouais. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait son 20h, où à mon avis, il se fait chier. On va dire les choses, et je crois qu'il a jamais dit clairement qu'il adorait.
Petit plaisir personnel. Voilà.
Mais la suite, la partie, le 20h30 le vendredi, 20h30 le samedi, 20h30 le dimanche, on sent que là, il s'amuse et il apporte quelque chose. Il y a une vraie écriture, dans cette partie-là.
Cette partie magazine et ce format magazine, il pourrait peut-être le faire ailleurs, sur d'autres tranches, sur d'autres horaires, formats.
Je ne le vois pas rester sur France Télévisions et lâcher cette tranche qui, effectivement, il semble affectionner particulièrement. Et je ne vois pas non plus qui à France Télévisions, quel visage de France Télévisions pourrait lui succéder dans cet exercice. C'est peut-être trop sérieux.
On va pas lui donner,
Alors, on en est où pour les remplaçants d'Anne-Sophie Lapix?
Eh ben, il y a plusieurs noms qui circulent. Celui de Caroline Roux, effectivement, qui semble tout à fait légitime et qui est pour l'instant plutôt évolue à l'interview politique. Mais est-ce que ce serait un choix judicieux de la part de France Télévisions? Est-ce qu'elle est assez populaire? Est-ce qu'elle a les épaules pour prendre la suite d'Anne-Sophie Lapix? On a parlé de Darius Rochebain, mais cette piste aurait été écartée. Il aurait décliné la proposition de France Télévisions.
Et puis Darius Rochebain, excusez-moi, c'est quand même un homme blanc de plus de 50 ans. C'est pas vraiment j'aime la patronne de France Télé.
D'après les rumeurs, on chercherait à faire un homme et une femme, à rester sur ce. Là, on a Anne-Sophie Lapix et Laurent de la Housse. Ouais. Il faudrait qu'on ait une personne de chaque sexe.
Parce que Delphine Ernotte, on se rappelle que quand elle est arrivée à la tête, elle a dit il y a un peu trop d'hommes blancs de plus de 50 ans sur France Télévisions.
On parle
donc
de Leïla Kaddour éventuellement pour remplacer. Effectivement, là, on parlait des stars et des non-stars à la présentation.
Leïla Kaddour, excuse-moi,
n'est pas vraiment une star, effectivement.
Non, et puis elle fait juste le midi, le week-end. On peut dire que ce soit un grand succès. Se fait massacrer en audience sans arrêt par TF1. Hein.
Plutôt que de choisir la facilité.
Non mais il y a son salon quoi.
Il y a la solution de facilité, soit on prend quelqu'un qui fait le 13h ou qui est déjà là en joker, soit on fait un vrai choix. Léa Salamé par exemple, qui est aussi une piste envisagée, ce serait un choix fort qui plaira pas sans doute à tout le monde, mais ce serait un choix fort.
Gauthier, est-ce qu'il y aura pas un problème politique pour le choix de Léa Salamé si jamais c'est elle qui est choisie? En plus on approche d'une échéance politique où son compagnon si son compagnon est candidat, Raphaël Guzman.
C'est complètement un sujet, ça sera un sujet. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet dans le choix qu'elle est en train de faire. Il faut noter que sur France Inter, elle avait quasiment abandonné les interviews politiques, faisant beaucoup des interviews culturelles. C'était Sonia De Villers qui avait récupéré la case. Et donc, peut-être Benjamin Duhamel, on verra si les syndicats l'acceptent et si les patrons plient auprès des syndicats qui ne veulent pas qu'ils cumulent privé et public. Mais si Raphaël Guzman Glucksmann est sur la ligne de départ, comme il semble le vouloir en 2027, même si le PS est en train de rester dans les mains d'Olivier Faure, ça sera évidemment, ou s'il joue un rôle majeur dans la campagne du Parti Socialiste, ça sera évidemment un problème pour Léa Salamé. Elle pourra pas cumuler le 20h, interview politique, et de l'autre côté, avoir son compagnon qui joue un rôle central dans la présidentielle de 2027.
Sarah Salman dans son salon, c'est un problème pour vous?
Que Léa Salamé, bah, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Sinclair, c'est que normalement quand vous avez votre compagnon qui se présente, vous devez vous-même vous retirer.
Elle l'a fait plusieurs fois. Elle s'est toujours retirée. Au moment des campagnes électorales.
Justement, elle s'est toujours retirée. À partir du moment où elle a cette donnée-là, je pense que, enfin, je suis pas sûre que si à sa place, j'accepterais, parce que là, 2026, c'est demain. Elle va devoir se retirer assez vite. Donc, il faut, en fait, si elle accepte, il faut d'ores et déjà penser à son remplaçant.
Ou alors, elle ne fera pas d'interview politique. C'est ce qu'elle avait fait. Quelle époque, par exemple, elle avait dit je ne fais pas d'interview politique.
Le 20h dans ce cas-là, parce que le 20h, on en parle à l'instant. Dans la présidentielle, au moment de la présidentielle,
il
n'y
a
c'est
que du politique. Ouais.
Voilà. C'est 100% politique.
Sauf Fabien, vous en êtes où, vous, dans ces petites infos?
Après, Léa Salamé avait arbitré un débat de second tour, le précédent, alors qu'elle était avec Raphaël Glucksmann.
Mais c'était moins connu.
Macron, Le Pen.
Ouais, c'est ça. C'était moins connu.
Non, il jouait surtout, lui, il n'avait pas le même rôle dans la politique française.
Enfin, il peut y avoir encore une autre hypothèse, sauf s'ils ne sont plus ensemble d'ici 26-27.
Vous avez des informations?
Elle ne va pas quitter Glucksmann juste pour pouvoir faire le 20h.
Non,
en même temps.
J'imagine. Enfin, c'est aussi. Il faut aussi.
Vous voyez
c'est une éventualité.
Non,
pas du tout. Il faut peser. Mais on connaît
Gauthier
bien.
Gauthier est vraiment prêt à tout. Pour être dans l'archive de l'UNA, il est prêt à séparer de sa femme.
Non.
Il est prêt à tout. Du moment qu'il rentre dans les archives, lui, c'est bon. Mathias, c'est un problème ou pas?
Ça serait quand même un problème. Effectivement, il y a un conflit d'intérêts, comme on dit dans ce cas-là. Quoi.
Je pense qu'elle le sait.
Oui, mais pourquoi on lui propose alors?
C'est pas envisageable pour moi. Quoi.
C'est ça qui est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on la voit partout en ce moment. On lui propose.
Elle fait les victoires de la musique. Il y a une soirée spéciale sur les océans. C'est vrai qu'elle
a fait plouf.
Une émission sur le monde. C'est vrai qu'elle est omniprésente. Mais c'est un choix. Il paraît qu'elle dort pas la nuit en ce moment, d'après Le Parisien.
Oui, j'ai vu effectivement cet article.
Elle dort pas la nuit parce qu'elle réfléchit.
Elle va prendre sa décision. Elle doit l'annoncer la semaine prochaine, mais en attendant.
Salman a lu cet article. Voilà, elle vient de le dire.
Comme quoi, Sarah Salman sait lire. C'est déjà l'info du jour. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. C'est Europe 1, on continue à parler de ça. Et puis juste après, on parlera d'une autre affaire. C'est un. Alors, cette histoire, elle est complètement folle. On sera avec Diane Gouet, qui est présidente de l'association Cœur sur Pattes. Ça n'a rien à voir avec la télévision. Elle risque d'être condamnée pour avoir sauvé un animal de la mort. On va en parler avec elle dans un instant. Elle sera avec nous en studio. L'histoire, elle est complètement dingue. On en parle, mais on continuera juste après la pause à parler encore d'Anne-Sophie Lapix, parce qu'elle va être sur RTL aussi, chez nos amis d'RTL, la radio en face, la radio toute rouge.
Elle prend la place d'Yves Calvi.
Voilà, Europe 1, la radio qui monte, RTL, la radio qui... À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h,
Jean-Marc Morandini sur Europe 1.
Carrefour. Chez Carrefour, pour deux boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveurs partagées. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On marche sur la tête, continue sur Europe. On va se retrouver dans un instant. On continue à parler de ce mercato fou qui est en train d'avoir lieu du côté de la télévision. Ça fait des mois, voire des années qu'il n'y avait pas un tel mercato. Vous saurez tout sur Europe 1. A tout de suite.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. libre de s'informer. Cet entrisme qui pourrait faire basculer toute la société française dans la charia.
Nous sommes la patrie de l'esprit critique, des lumières et des droits de l'homme. Donc nous sommes en première ligne et c'est pour ça que nous sommes attaqués.
Cet entrisme instrumentalise beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant vous êtes des victimes.
Nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État.
Europe 1, la radio libre.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Parce qu'avoir une passion est un moteur d'épanouissement et de réussite, Acadomia propose des scolarités en sport-études avec les clubs et les fédérations sportives. Madame Péricard, mère de Giovanni et Daphné, joueur de tennis.
Quand on est sportif de haut niveau, il y a des compétitions tout le temps. L'équilibre entre le projet sportif et le projet scolaire, c'est indispensable pour que le jeune soit bien.
Philippe Colléon, président d'Acadomia.
Il ne faut pas opposer réussite sportive et réussite scolaire. Notre mission chez Acadomia, c'est aussi de permettre à chacun de vivre pleinement son double projet.
N'hésitez pas à vous renseigner. Plus d'infos sur acadomia.fr. Acadomia, le plaisir de réussir.
Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise, pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 20 juin, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors prenez rendez-vous tout de suite sur Carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass.
Carglass répare. Remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais à avancer. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Merci d'écouter Europe 1, le journal permanent. C'est avec Émilie Dez.
Israël appelle les habitants à évacuer un arrondissement entier de Téhéran. Le ministre de la Défense israélien avait prévenu que l'Iran paierait le prix des frappes iraniennes de la nuit dernière. Téhéran a frappé plusieurs villes israéliennes, faisant au moins 11 morts, 24 au total depuis vendredi, depuis le début de l'offensive israélienne en Iran. Israël annonce vouloir frapper des infrastructures militaires qui appartiennent au régime iranien. Tsahal, qui a déjà visé des centres de commandement des gardiens de la révolution en Iran avec l'objectif affiché d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Le conflit entre l'Iran et Israël est au cœur des discussions au sommet du G7 qui s'est ouvert au Canada. Les autorités françaises s'efforcent de faciliter leur retour en France à très brève échéance. Israël a expulsé en Jordanie les 3 derniers passagers du bateau qui avait tenté de rejoindre Gaza la semaine dernière. Parmi eux, 2 Français. Au total, 12 personnes avaient été arrêtées lundi dernier à 185 km des côtes de Gaza, à bord notamment l'eurodéputée insoumise Rima Hassan et la suédoise Greta Thunberg. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le chauffard qui a tué la gendarme Mélanie Lemay en 2020 après un refus d'obtempérer est jugé aujourd'hui devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne, jugé pour violence ayant entraîné la mort et pour conduite sans permis et sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Bruno Retailleau a présidé la cérémonie hommage national ce matin aux 2 pompiers morts la semaine dernière à Lens, dans l'Aisne. Ils avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Une enquête a été ouverte après la mort de 2 sexagénaires hier matin à Belleville-sur-Loire, dans le Cher. Ils ont été fauchés par un camping-car. Son conducteur, un octogénaire dont les dépistages se sont révélés négatifs, a été placé en garde à vue. La vérité est-elle toujours convaincante ou encore sommes-nous libres en toutes circonstances? Ce sont quelques-uns des sujets de philosophie proposés ce matin aux candidats au bac. Place aux épreuves écrites de spécialité demain. Et puis un mot des mondiaux de judo au lendemain du sacre de Johan Benjamin Gaba en moins 73 kilos. Les Bleus n'ont décroché aucune nouvelle médaille. Aujourd'hui, les Français comptent 3 médailles au total, une de chaque métal.
Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve tout à l'heure à 17h.
Europe 1, 16h-18h.
On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini.
16h-18h sur Europe 1, on marche sur la tête et on parle de télé, on parle de mercato. Tout à l'heure, on vous racontera une histoire complètement folle concernant un animal, concernant une jeune femme qui pourrait être condamnée pour avoir sauvé un animal de la mort. Elle sera avec nous en direct et vous allez voir, l'histoire est complètement dingue. Et puis à partir de 17h, page spéciale consacrée à Israël, bien évidemment, avec à nouveau des témoignages, à nouveau le point sur la situation sur place. Auparavant, donc, ce mercato qui continue et qui prend de l'importance. On est avec Julien Pichenet qui, tout à l'heure, nous disait d'ailleurs que c'est un des mercatos les plus importants depuis plusieurs années.
Il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini, il y a encore plein d'interrogations. Laurent Delahousse, on se posait la question, est-ce qu'il va partir? Qui va le remplacer? Qui va remplacer Anne-Sophie Lapix? Enfin bref, il y a encore plein de questions auxquelles on va essayer de répondre d'ici la fin de la saison.
Eh bien, on va tenter de répondre à tout ça. On est toujours avec Gauthier Lebret, on est toujours avec Mathias Leboeuf, on est toujours avec Fabien Lecoeuvre, on est toujours avec Sarah Salman. Vous disiez du mal de Mathias Leboeuf pendant la pause. Vous voulez pas lui dire en face?
J'ai pas dit du mal, allez-y.
Allez-y.
Vous êtes vraiment un bon pote, je vous dis un truc en off.
Je veux savoir.
J'ai dit philosophe, bon, on est tous un peu philosophes.
Parce que je précise que Mathias est journaliste et philosophe. Elle était surprise de voir philosophe.
Bah oui, je suis philosophe. Il se trouve que quand vous coupez du saucisson, vous avez l'impression d'être un peu charcutier. Non, donc voilà, moi j'ai quand même un diplôme et j'ai une activité de philosophe. Ne vous en déplaise.
J'ai répondu à Sarah Salman, toi t'es bien écrivaine. Donc.
Moi j'écris des livres, contrairement à vous, cher Gauthier.
Oui. C'est vraiment vous qui les écrivez?
Oui, vraiment.
Ah bah je suis étonné.
Bon. Vous les avez jamais lus?
Faut dire, ça se lit très vite. Hein.
Voilà, donc chacun a son petit paquet. C'est
mais vous êtes vraiment un ami fiable.
Non, c'est vrai, il faut dire les choses. On est là pour dire les choses aux éditeurs d'Europe 1. Voilà.
Oui, tout ce que je vous dis à la pause, à chaque fois, vous le répétez à l'antenne.
Alors, pas tout, parce que si vous voulez que je dise tout.
Non.
Bon, allez, on revient au mercato. Au mercato télé, qui est quand même très important. Alors, Anne-Sophie Lapix, on a dit, elle va aller sur M6, mais elle va aller aussi chez nos confrères de RTL.
Oui, c'est un package, hein, c'est le groupe,
voilà,
M6.
Hein, c'est le même groupe, hein, voilà, ouais. C'est pour ça. Et alors, et à cause d'elle, Yves Calvi est viré? Parce qu'elle va prendre sa tranche, a priori.
Elle va prendre sa tranche.
Non, vous êtes super méchant. Non, mais c'est pas possible.
Yves Calvi ne fera plus la tranche 18h-20h, qu'il occupait jusqu'à présent, parce que c'est elle qui va la faire.
Ça faisait qu'une saison, Yves Calvi faisait le 18h, puisqu'il était sur la matinale la saison d'avant.
C'est ça. Alors, ce qui est assez incroyable pour Yves Calvi.
Il reste plus de tranche pour lui.
Il reste plus de tranche pour lui. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a déjà failli être viré de RTL l'année dernière, parce qu'on lui a enlevé la matinale. Il a récupéré au dernier moment le soir sur RTL, et là visiblement on lui enlève à nouveau le soir. Il était avant sur BFM.
Qu'il a perdu en plein été,
on l'a appelé, on lui a dit merci, au revoir.
Il devrait récupérer le 20h de France 2.
Je pense pas.
Peut-être qu'il va succéder à Laurent Delahousse. Hein.
Non plus. Non, je pense que voilà.
C'est pas un journaliste de prompteur. Hein.
Non.
On parlait de
ça. Non, c'est un journaliste d'interview. Voilà, il est très bon en plus. Yves Calvi, il est très bon dans les interviews.
Souvent, elle est circulée à l'époque pour remplacer Pernaud à un moment donné. Mais
ça serait un peu disruptif, justement. Ça changerait un peu.
Non, il va se faire chier. Excusez-moi. Il va se faire chier. Aller lire un prompteur dans les journaux.
Vaut mieux lire un prompteur qu'être sur son canapé après.
Ça, c'est sûr. C'est mieux payé. RTL, ça va beaucoup changer l'année prochaine, puisqu'on parle de mercato. Qu'est-ce qu'elle a dit encore?
J'ai pas compris.
Mais personne la comprend. En fait. On répond oui à chaque fois pour lui faire plaisir.
Mais j'ai l'impression d'être avec une enfant. au parc d'attractions. Oui, tu vas faire le oui.
T'auras un bonbon, il n'y a pas de souci. Gauthier, en fait, ça va beaucoup changer à RTL l'année prochaine, puisqu'on parle de mercato, on parle de tout ici.
Bien sûr. On
a des confrères qui sont RTL, qui sont France Inter, etc. Donc on en parle.
Non, mais c'est des confrères de qualité. Mais moi, je note un changement de ton sur RTL. C'est-à-dire que avant la matinale était donc faite par Yves Calvi. Depuis un an, c'est Thomas Soto. Amandine Bégaud reprend les auditeurs ont la parole que Pascal Praud a incarné pendant longtemps. Puis ça a été Éric Brunet qui donc va être débarqué. Il y a le retour de Marc-Olivier Fogiel. Le 18-20, c'était Yves Calvi. Et maintenant, c'est
tout va changer.
Et je me demande. si cette nouvelle grille aura la même fibre populaire que peut avoir, par exemple, un Yves Calvi connecté à l'auditeur, comme pouvait l'être Pascal Pro avec les auditeurs ont la parole. Est-ce que Amandine Bégou va réussir à retrouver les scores de Pascal
Vous dites en clair que ça risque de, je résume, que ça risque de devenir une radio bobo, quoi. Ce qui n'est pas du tout l'âme de RTL.
Voilà, ce qui n'est pas une critique en soi, mais je vois la direction que ça prend. J'ai l'impression que ça s'éloigne de la fibre populaire vers cette ligne plus bobo, vous avez raison, voilà, que peuvent incarner les différentes incarnations de la saison prochaine.
Fabien Lecoeuvre, on précise qu'ici, en revanche, le 16-18, ce sera Pascal Pro, justement, à partir de l'année prochaine. Et ça, ouais, c'est vrai qu'on va retrouver cette fibre populaire. Qui est un peu l'âme d'Europe 1.
Connectée à l'auditeur.
Voilà, avec les auditeurs, parler avec les auditeurs. Et ça fait beaucoup de changements dans le groupe M6. C'est-à-dire M6 est en train de changer totalement, RTL est en train de changer totalement. Il va se poser beaucoup de questions l'année prochaine.
Vous connaissez bien ce jeu, Jean-Marc. C'est vrai que quand on procède à beaucoup de changements de ton peut-être comme le disait Gauthier, mais beaucoup de changements aussi globalement, et quand on change toute sa grille du matin au soir ou presque, c'est peut-être le signe que ça va pas si bien que ça. En général, quand tout va bien, on procède à quelques petits changements parce que
et la radio c'est de l'habitude,
c'est inéluctable.
C'est, ça, c'est exactement ce que j'allais dire. La radio c'est un vrai média d'habitude.
Voilà, bon, ça nous est arrivé aussi parfois Europe 1 de tout changer, mais quand ça va bien, c'est comme ça qu'on peut prendre un petit peu la température.
On changeait beaucoup sur, on changeait beaucoup sur Europe quand ça marchait pas aussi. Voilà. Oui. Et là, c'est vrai qu'on a fait des changements et ça cartonne. Donc
il y en a d'autres qui font des changements. Quand on regarde BFM, ils ont changé beaucoup de fois. Il y a eu Éric Brunet, Laurent Ruquier, ils sont toujours dans cette période d'ajustement.
Alors c'est vrai que le 20h
bonne intervention de Sarah Salman.
Quelqu'un aura un stylo?
Allez, je vous donne
je note là. 16h39, Sarah Salman a fait une bonne intervention. Mais c'est vrai que par exemple que le 20h...
Non mais j'aurais aimé finir l'intervention.
Ah bah c'était pas fini. Faites attention parce que quand ça commence bien, en général ça finit mal. Allez-y.
Non mais voilà, c'est bon.
Ah oui.
Pas mal. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instabilité sur BFM et il y en aura énormément à la rentrée, mais même chose parce que
CNews... Pas ce qu'ils veulent.
Alors je ne parlerai pas du tout à la place de Serge Nedjar, mais je pense
pas contre CNews.
Absolument que la grille de CNews va pas énormément évoluer parce que tous les rendez-vous fonctionnent. BFM, il y aura énormément de changements parce qu'ils cherchent, même chose, le succès qu'ils n'ont plus.
Julien Pichenet, spécialiste média à Europe 1, c'est vrai que, par exemple, BFM a beaucoup changé. Le 20h de BFM, ça n'a pas arrêté de changer.
On le disait depuis le début des années 2000, on le disait tout à l'heure à 16h, trois incarnants seulement, c'est rien pour le 20h de France 2. Hein.
Ouais.
Et depuis... 3 ans, combien d'incarnants pour le 20h de BFM? Est-ce qu'on serait capable déjà de tout
citer? Attendez, il est en train de parler.
Ben je sais pas. Non, Sarah, je dis ça, je sais pas combien il y en a eu, mais il y en a eu énormément déjà en l'espace de même 2 ans. Ruquier, c'était début rentrée de 2023.
Non, mais Ruquier, c'était une erreur. Voilà, Ruquier a un vrai talent, c'est un vrai bon animateur. Il sait faire des choses, mais c'était pas fait pour être sur BFM.
Mais c'est vrai que pour fidéliser un public.
Ensuite, ils sont allés chercher Éric Brunet.
Qui était une erreur aussi, parce qu'il ressemble trop à Pascal Pro sans avoir sa notoriété. Donc, ça faisait un peu. Non, j'allais dire un truc pas sympa, mais c'est pas.
Non,
c'est pas votre genre. C'est pas votre genre.
Non, mais ça faisait.
J'aime bien moi Eric en plus.
Moi aussi,
c'est
beaucoup.
Un garçon super sympa.
Mais il est très bon. Mais ça faisait Pascal Pro sans l'audience, quoi. Voilà.
Non, mais le problème, en fait, dans tous ces médias, c'est la volonté de copier. Oui, en fait, la copie ne marche jamais. Voilà. Enfin, c'est là-bas, et c'est bizarre que les patrons ne soient pas au courant de ça. Quand vous mettez quelqu'un qui est la copie de quelqu'un qui est en face, ça marche pas. Pro, c'est un énorme carton. Il fait plus d'un million sans arrêt. Voilà. Vous mettez pas quelqu'un qui ressemble à Pro face. À la limite, vous le mettez à partir de 21h parce que c'est vrai que c'est différent parce que vous étiez pas là à l'époque.
Parce qu'il y a Gauthier qui est là.
Et c'était pas ce carton d'audience monumentale que Lina va mettre dans ses archives.
Ça serait bien de terminer juste avant Lina.
C'était pas ça du tout.
Ça veut dire que c'est pas un problème d'animateur, mais de concept et d'émission dans ce cas-là. Puisque s'ils ont essayé avec plein d'animateurs différents et que ça fonctionne pas, c'est qu'il faut revoir la grille plus en profondeur.
Fabien Lecoeuvre, une analyse.
Je pense que ça ne peut pas fonctionner quand on change trop souvent les visages d'une chaîne ou d'une radio.
C'est vrai.
Parce que je pense que le public n'a pas changé. Ça c'est resté. On consomme l'information et la musique d'une autre manière par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Mais par contre, le mental, c'est-à-dire la réflexion, quand il y a des visages qui incarnent une chaîne de télé ou une chaîne de radio, et on le voit avec le succès de CNews, d'ailleurs, quand on est incarné par des visages, ça fonctionne. À partir du moment où vous changez tous les gens, toutes les années, pardon, la tête des gens, je pense qu'il y a un souci, on est incarné par personne.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce qui se passe avec la tranche du 20h, ce que vous disiez,
exactement,
Jean-Marc.
Mais c'est un peu l'idée globale de BFM, c'est le souci qu'ils ont aujourd'hui. C'est devenu la télé des inconnus, BFM. Enfin, honnêtement.
J'aurais pas dit jusqu'à là, mais c'est ça.
Non, mais c'est vrai que quand vous regardez, moi je sais pas comment s'appellent les présentateurs, les présentatrices.
Moi, je sais pas qui fait le 20h.
Ils étaient déjà en panique en changeant de numéro, alors pour changer le reste, ça va être compliqué, quoi.
Ouais, c'est Maxime Switek.
Maxime Switek, oui. Il a un peu que c'est un ex d'Europe en plus. Moi je l'ai connu ici à Europe 1. Merci. J'aime bien que vous ça, vous pouvez le répéter? On va le garder. Dernier mot, Julien Pichenet. Quand même, on est au bout du mercato, là, où ça risque de reprendre?
Ah non, non, il y a peut-être encore des inconnus, parce que... qu'est-ce que je pourrais vous annoncer? Moi, je peux pas le deviner, hein. On a été pris de court par la Pix tout à l'heure, mais on est quoi?
Ça pourrait bouger encore.
On est quel jour? Le 15, 16, 17
On est le 16 juin.
16 juin. Il reste encore un bon mois, je pense.
Donc ça va bouger encore.
Ah, oui, je tiens à dire que Sarah Salman vient de donner la date et la bonne date. C'est une information que Sarah Salman vient de nous donner dans l'émission.
Ça fait deux, elle va plus rien dire de bien. C'est foutu. Bon, merci en tout cas, Julien. Merci d'avoir
été matin à 9h50 pour le journal des médias.
Effectivement, bien évidemment. Et on compte sur vous. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces infos. Et merci d'être passé dans Marche sur la tête. Sur Europe 1. On va maintenant vous parler d'une autre affaire qui n'a absolument rien à voir mais qui m'a interpellé. C'est une affaire qui concerne les animaux. Et on a Diane Gouillet qui nous a rejoint en studio. Bonjour Diane.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci
bonjour
beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes présidente de l'association Cœur sur pattes. Et moi j'ai vu votre histoire dans la presse pendant le week-end. Je me suis dit, faut à tout prix que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes présidente d'une association, Cœur sur pattes, une association pour les animaux. Vous êtes engagée depuis plus de 10 ans dans la cause animale. Vous y consacrez toute votre vie. Et racontez-nous ce qui s'est passé. Vous êtes partie pour essayer de sauver un chien.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai été contactée sur mes réseaux sociaux, du coup, parce qu'il y avait une chienne dans un local à poubelle qui était très peureuse et mal en point. Donc, je me suis rendue sur place et j'ai trouvé une chienne, effectivement, en train de mourir. Elle était déshydratée, anémiée. Il y avait ses organes génitaux qui ressortaient et qui étaient nécrosés. L'odeur était nauséabonde. Et les pompiers sont venus sur place, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils m'ont laissé repartir avec le chien.
Jusque-là, tout le monde doit dire bravo.
Voilà, c'est ça. Ensuite, je me suis rendue chez un vétérinaire, donc le plus proche, qui ne me connaissait pas. Il a essayé de joindre le propriétaire qui était injoignable, donc il m'a dit de repartir avec le chien parce qu'il ne pouvait rien faire. Donc ensuite, j'ai déposé le vétérinaire, le chien chez mon vétérinaire.
J'ai déposé le vétérinaire chez le chien.
Ça va être un peu plus compliqué. Donc j'ai déposé la chienne du coup chez mon vétérinaire. J'ai eu les propriétaires entre temps. Tout de suite, je me suis aperçue qu'il y avait des propos assez incohérents. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire opérer la chienne. Enfin, déjà, quand je les ai appelés, ils n'étaient même pas au courant que la chienne n'était plus chez eux. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit oui, elle est dans le garage. J'ai dit bah non, là, elle est avec moi, elle est en train de mourir. Mais ils n'avaient pas l'air hyper inquiets. Ils avaient l'air, pas plus d'émotion que ça. Donc avant de les appeler, je me suis dit c'est soit une chienne qui erre depuis des semaines, voire des mois, ils vont être super contents de la retrouver. Ou alors c'est des gens qui s'en fichent de leur chien, ils vont me le céder. Quoi.
Mais ils habitaient non loin du garage en fait ?
Pas très loin.
Mais c'était pas en dessous de chez eux par exemple ?
Non, c'était quelques rues plus loin.
D'accord, donc la chienne, il a laissé quelques rues plus loin par rapport à l'endroit où il vit ?
Alors d'après eux, elle se serait échappée.
D'accord.
Elle se serait échappée, elle se serait réfugiée dans un local à poubelle.
Vous y croyez ?
Je pense qu'elle s'est échappée parce que vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle était dans un état catastrophique.
Est-ce qu'elle était maltraitée ?
Alors pour moi, oui, parce que clairement, la chienne était complètement déshydratée, complètement anémiée. Elle arrivait à peine à marcher, elle tenait plus debout. Et d'après eux, elle était chez eux la veille. Donc ça veut dire qu'un chien ne peut pas être dans un état comme ça en quelques heures, c'est pas possible.
Donc jusque-là, j'ai envie de dire, ce que vous faites, c'est une bonne action. Et c'est arrivé sans doute plusieurs fois,
oui,
que vous rendiez service comme ça, que vous aviez sauvé des animaux, et c'est le but de votre association.
Oui.
Mais les choses vont mal tourner pour vous. C'est là où
tout
ça paraît dingue. Qu'est-ce qui se passe?
Alors j'ai tout de suite été déposée plainte pour demander une réquisition du chien. Ensuite, malheureusement, ça s'est assez mal passé. D'abord pour la chienne qui a eu de gros soucis parce qu'on a dû tout recréer chirurgicalement son système urinaire et ça marchait toujours pas. En fait, elle pouvait pas uriner toute seule, donc elle a été opérée 5 fois.
Qui a payé ?
Mon association.
C'est l'association qui paye. Donc c'est pas les propriétaires ?
Non.
Les propriétaires n'ont rien payé ?
Non, rien du tout.
D'accord. Donc c'est vous avez vraiment pris en charge l'animal et vous êtes occupé de lui ?
Tout à fait. On en a eu pour plus de 6000 euros. Ouais. De frais veto.
Wow.
Et une fois que la chienne était chez moi, encore entre la vie et la mort, je devais lui vider sa vessie 5 fois par jour avec une seringue pour espérer qu'elle survive, mais on n'était même pas sûr. Et là, j'ai une policière qui m'a appelée en me disant que la propriétaire avait porté plainte et qu'il fallait que je rende le chien.
Elle a porté plainte contre vous ?
Tout à fait, pour vol.
Ah, mais ça paraît incroyable.
C'est incroyable, oui.
Et que vous a dit la policière ?
Elle m'a dit qu'il fallait rendre le chien, que c'était comme ça, pas autrement. Et moi, je lui ai dit que si je rendais la chienne, elle allait mourir. Elle m'a dit, c'est comme ça.
Mais c'est une chienne qui est donc maltraitée, a priori, en tout cas, qui n'est pas dans un bon état. Vous l'avez retrouvée dans un état qui est totalement incroyable. Et on vous demande de la rendre à ces personnes parce que ces personnes sont propriétaires.
C'est ça.
Mais il ne peut pas y avoir une décision de justice qui vous attribue l'animal ? Sarah Salman, oui, non, mais vous allez en parler dans un instant, parce qu'en plus vous êtes avocate, on le rappelle, en plus d'être là. et vous allez nous expliquer
sérieux,
ça.
Là.
Non, mais oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi le sourire de temps en temps.
Ouais.
Donc il ne peut pas y avoir une décision de justice ?
Eh bien, personne n'a compris, parce que ce n'est pas la première fois que je fais ça, et d'habitude, ça se passe toujours très bien. Je vais souvent porter plainte, et en général, ça se passe bien.
Et on vous a expliqué que vous risquez d'être condamné ?
Oui, tout à fait. On m'a dit que si je ne rendais pas le chien dans les 15 jours, j'aurais de graves problèmes. Mais moi, c'était hors de question que je laisse mourir ce chien. Quoi.
Et ça fait combien de temps, là ?
Là, ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans ?
Tout à fait.
Et donc, il y a des choses qui vont se passer en justice.
Alors, la chienne a réussi à être sauvée. Ensuite, j'ai été contactée. Enfin, je devais avoir un rendez-vous en fait au commissariat. Donc, au dos de ce papier, il y avait un numéro comme quoi je devais appeler pour confirmer ma venue. Et quelques jours avant le rendez-vous, j'ai 4 policiers qui sont venus me chercher chez moi et qui m'ont mis en garde à vue.
Mais non, oui. Mais ça paraît dingue. L'histoire, elle paraît complètement dingue.
Garde à vue,
oui.
Garde à vue pour ça.
Et vous avez passé combien de temps en garde à vue ?
24 heures, le maximum.
Mais non.
Oui, parce que, soi-disant, la policière n'arrivait pas à joindre le parquet.
Bah bon, la policière n'arrive pas à joindre le parquet ?
Non.
Mais ça n'existe pas, ça, normalement.
Saint-Chamond.
Sarah Salmon, je voudrais que vous réagissiez à tout ça avec votre casquette d'avocate.
De ne pas réussir à joindre le parquet, sachant que même à Paris, où c'est des commissariats, il y a beaucoup de monde, on arrive toujours à joindre le parquet. Alors, il faut laisser sonner longtemps, mais on y arrive. Donc, 24 heures.
C'est ce que mon avocate m'a dit, oui, normalement.
Ah oui, normalement, on y arrive. C'est-à-dire que vers 17-18 heures, vous avez le retour parquet. Je pense que vous auriez pu rentrer chez vous. Le vol, c'est la soustraction juridiquement, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et il est vrai que juridiquement, un animal, c'est encore considéré comme un bien meuble, même s'il y a eu des
avancées quand même là-dessus.
Il y a eu des avancées en 2015 où c'est un être doué de capacités sensitives. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que juridiquement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devriez le rendre. Mais comme il y a de la maltraitance et que vous avez déposé plainte, ce qui est intéressant de voir, c'est que la plainte pour maltraitance met beaucoup de temps à aboutir. Et celle pour vol, eh bien, vous avez déjà, de ce que vous dites, été condamné.
Alors, la plainte pour maltraitance a été classée.
Classée sans suite.
Et le vol ? Et pour le vol ?
Pour le vol, j'ai été condamnée.
À quoi ?
J'ai été reconnue coupable.
À quoi ?
Et alors, ils ne m'ont pas dit.
Comment
j'ai fait appel. En fait, le procès a eu lieu le 31 mars. Le 31 mars, ils m'ont laissé un mois pour rendre la chienne. Ensuite, je les ai revus le 5 mai, je crois. Oui, c'est ça. Et là, ils m'ont dit que j'étais reconnue coupable et qu'il fallait rendre la chienne avant le 2 juin et que selon ma décision, on verrait ce que j'ai comme peine.
Parce que vous n'avez que 10 jours pour faire appel en matière pénale.
C'est ça. Donc j'ai fait appel, du coup, il n'y a pas eu de décision le 2 juin.
Pour l'instant, c'est suspensif. Mathias Leboeuf.
La question, c'est comment la plainte pour maltraitance a pu être classée alors que, manifestement, elle était dans un état déplorable, avec les appareils génitaux extérieurs, l'histoire de la vessie. Ça paraît manifeste qu'elle était maltraitée.
C'est pour quel motif que ça a été classé sans suite ?
On n'a pas de motif.
Si, ils vous le mettent, ils vous disent est-ce que c'est absence de preuve, est-ce que c'est. Ils vous mettent en général le motif et vous avez le droit de faire une plainte avec constitution de partie civile.
Alors nous, on n'a rien eu.
Pourquoi elle était dans cet état ? Elle a été battue ? Elle a été.
Alors c'est une chienne qui fait des chiots.
Des chiots ?
Oui, de la reproduction.
C'est ça, de la reproduction.
Ah, des chiots, pardon, j'ai compris, du chiot.
Ouais, des chiots, en fait. Et ils font naître des chiots et après ils les vendent.
D'accord.
Voilà, sauf que.
Donc elle avait mis bas et ça s'était mal passé, c'est ça ?
En production
intensive. C'était le mois d'avril. Donc
juste pour bien comprendre.
C'était bien avant.
À l'heure qu'il est, donc, vous avez toujours la chienne avec vous ?
Oui.
Vous avez refusé de la rendre alors que vous avez été condamné. Vous aviez jusqu'au 2 juin, donc on est le 16 juin aujourd'hui, vous aviez jusqu'au 2 juin pour la rendre et vous avez décidé de la garder.
Oui, tout à fait.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes prête à être condamnée ? Vous êtes prête à payer une prison ?
Oui, tout à fait.
Non pas à payer, pardon, non pas une prison. Vous êtes prête à payer une amende ?
Oui, tout à fait. De toute façon, là, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Parce qu'on en est à 6 000 plus 8 000 euros de frais de justice et ça ne cesse d'augmenter.
Non mais on est chez les fous là. Oui. Excusez-moi, on
est. La garde à vue, moi c'est la garde à vue.
Je crois que cette émission, il faudrait l'appeler en marchant à la tête.
C'est une bonne idée. C'est une chienne Staffy, c'est ça ? Elle a une valeur particulière.
Ah oui, Staffy. Elle est là.
Oui, mais donc ça veut dire ça vaut combien grosso modo ?
Je dirais 4-5 000.
Alors les chiots sont vendus 1 500 parce que j'ai trouvé ces chiots à vendre sur le Bon Coin. Alors d'après elle, elle fait pas de chiots, mais je les ai quand même trouvés à vendre sur le Bon Coin avec la photo de la chienne. Et oui, elle les vend 1 500 euros, les chiots.
D'accord.
Et vous êtes très en colère quand même. Enfin, vous en parlez très, très doucement. Je pense que c'est un peu votre mentalité, oui. Votre état d'esprit. Vous en parlez très doucement, très calmement. Mais vous dites, j'ai été traitée comme une délinquante pour avoir sauvé un chien de la mort.
Oui, tout à fait. Bah, j'étais, bah, oui, tout à fait. Je suis allée en garde à vue. J'ai été traitée vraiment... Et comme une délinquante,
on garde à vue.
Il n'y a pas eu de conciliation entre la personne propriétaire, ex-propriétaire du chien et vous. Vous n'avez pas été rapproché avant la procédure?
Non.
Aucune conciliation?
La conciliation, c'est surtout en matière civile qu'il y a une tentative de conciliation. Là, on est en matière pénale. Je ne suis pas étonné qu'il n'y en ait pas.
Enfin, la conclusion de cette histoire, vous sauvez un chien, vous risquez la garde à vue et plusieurs milliers d'euros de dépenses.
L'histoire, elle est totalement
folle. Alors que quand tu es délinquant dans la rue et que tu fais des méfaits...
Alors là, c'est une fois que j'aurais pu sortir.
Mathias, je suis contaminé par
vous êtes la gauche, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais non, je fais partie de la gauche sécuritaire et je trouve que c'est incroyable.
C'est quoi la gauche sécuritaire?
La gauche sécuritaire.
La gauche sécuritaire, c'est la droite, en fait, pour résumer.
La gauche sécuritaire,
pour être entre droits. On peut être
volant, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Hein.
Et ne pas être laxiste sur les questions sécuritaires.
Bon, merci Diane, en tout cas, d'être venue. On espère que le fait que vous soyez venue dans cette émission sur Europe 1, ça va peut-être essayer de faire bouger les choses, qu'on va se rendre compte qu'on est complètement chez les dingues dans cette histoire. Merci beaucoup Diane, bon courage. Je rappelle le nom de votre association si on veut vous contacter ou si on veut vous aider. Ça s'appelle Cœur sur Pattes. Merci beaucoup. Fabien Lecoeuvre, c'est à vous. Vous allez nous donner des infos. Eh ben, c'est maintenant.
Ah, ouais, d'accord. On change l'horaire, c'est bien.
Eh ben, ah oui, parce qu'il y a l'horaire.
Des fois, vous savez vous adapter.
17h05, 17h25. Voilà. Là, c'est 16h53. Et pour une fois que vous la faites, votre chronique, profitez-en.
Je suis ravi.
Des fois, c'est jamais, surtout.
La plupart du temps, ça saute.
Oui, des fois, on parle d'autres sujets.
Bon, vous voulez nous parler de quoi?
Allez, je vais vous parler de Zaz.
Ah, ben allez-y.
Voilà, Zaz, la chanteuse Zaz qui a 45 ans, qui attend son premier enfant, je le rappelle, avec son mari Joe, qui est un coach sportif d'origine mauricienne. Et a révélé justement récemment qu'elle adore les fantômes et elle voit des fantômes depuis son enfance. Eh bien, vous allez comprendre, parce qu'avec son mari, maintenant, il s'apprête à accueillir un enfant et il cherche une maison où il y a des fantômes, maison hantée de préférence. Parce qu'elle adore vivre avec des fantômes. D'accord. Elle aime la présence de fantômes, elle en parle aisément, elle en a depuis son enfance.
Alors, il faut lui dire que très vite, il y a des messieurs en blanc qui vont venir la chercher. Surtout qu'elle ne s'inquiète pas. Ils vont l'emmener dans une voiture qui fait pimpon.
Elle va très bien.
Et ça va très bien se passer.
Non, elle va très très bien. Elle va très très bien. Mais elle aime cette présence comme ça, des fantômes dans les maisons hantées, tout ça. Donc, il cherche une maison particulièrement hantée.
Si vous avez. Chez Jean-Marc?
Ah bon, vous avez une maison hantée. Alors tiens, et Zaz n'est pas la seule à attendre un heureux événement, puisque la chanteuse et comédienne Elsa Esnou attend elle aussi son premier enfant.
Ah oui, ça fait production, Elsa, c'est ça.
À 36 ans, c'est l'héroïne des mystères de l'amour, évidemment, et son compagnon lui aussi, coach sportif, Alexis Jacquemin. Ils attendent donc un petit garçon.
Ah, mais ils sont ensemble depuis pas très longtemps en plus, non?
Pas très longtemps. Oui, parce que ce garçon a quitté une précédente relation dans ce métier d'ailleurs.
C'est elle qu'on entend là, on va l'écouter un petit peu.
Permis d'aimer, je me suis entraînée aux larmes et aux soupirs.
Ça vous plaît,
Non, mais c'est une belle voix.
Bah oui, je sens l'émotion.
Puis moi, j'aime les histoires d'amour compliquées.
D'accord, et c'est une histoire d'amour compliquée donc. Allez, troisième info. C'est la dernière, allez-y.
Le roi Charles a abusé par un faux prince. Ah. Eh oui. Alors, c'est
Il y a de la production dans votre chronique, hein. Il y a musique et tout, excusez-moi.
À la réalisation, c'est évident.
On voit que c'est Europe 1, là. Rémi Duprat qui a fait toutes les recherches sur la musique.
Alors, c'est le prince Donatus. Ne le croisez pas surtout, celui-là.
C'est quoi ça?
Donatus de Hohenzollern a réussi à pénétrer le cercle familial royal d'Angleterre, obtenant des postes honorifiques dans de grandes institutions anglaises, il faut le dire, dont souvent le roi Charles est le mécène.
J'ai rien compris à votre
news. Depuis plus de 20 ans.
Rien compris.
Et depuis, alors, en deux mots, il y a un prince, un prince qui s'appelle Donatus de Hohenzollern.
D'accord.
Voilà, c'est un faux prince.
Et qu'est-ce qu'il a fait?
Tenez-vous bien, depuis plus de 20 ans, ce prince fréquente toutes les soirées, n'hésite jamais à engager la conversation avec tous les nobles qu'il y rencontre, y compris le roi Charles III et Camilla.
Bien sûr, il a parlé au roi.
Il est devenu familier de ce milieu, mais vous allez voir.
Et mais pourtant, faites vite parce qu'il y a la pub qui arrive.
Il n'a rien d'un prince, il vient d'être démasqué par le journal Le Sun. Et il s'agit d'un prof de musique allemand qui avait acheté un titre.
Oh, c'est une escroquerie.
Parce qu'il rêvait tout simplement de fréquenter la cour royale d'Angleterre.
Mais il n'a rien volé?
Non, mais enfin, il a donné sa carte, il a emprunté de l'argent, etc. Alors, à d'autres nobles, etc.
Donc il a volé l'argent ou pas?
Il a usurpé un titre.
Il va sûrement. Attendez, il a volé. On attend qu'il le rende. Ça, c'est Fred cette semaine.
D'accord.
Donc on va voir s'il le rend la semaine prochaine.
Donc en fait il y a rien quoi.
Ouais non il y a rien.
Mais quand même.
C'est un peu du pipeau quoi.
Ça a pas plu, aux Anglais.
Bon.
Parce que en Angleterre on peut pas s'acheter un titre. En Allemagne on peut encore s'acheter un titre comme on pouvait s'acheter en France.
D'accord.
Souvenez-vous de Giscard d'Estaing, il s'était acheté son titre de noblesse. Lui aussi dans les années 50.
Vous arrivez à nous mettre Giscard au milieu de votre chronique People. Vous êtes incroyable.
Bah oui.
Bon, merci Fabien, c'était passionnant. Alors franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait à 16h50 parce que
ah oui, moi,
on vous croit. A appris tellement de choses, c'était, ouais.
C'était
merveilleux.
C'était
merveilleux.
Riche.
Vous reviendrez, hein, j'espère.
Oui, si vous le voulez.
Bon. Bon, allez, on va faire une pause, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1, puis on parlera à partir de 17h de la situation en Israël, bien évidemment, page spéciale sur Europe 1. Vous aurez comme toujours beaucoup de témoignages sur la situation sur place, une situation qui est de plus en plus tendue avec, bien évidemment, ces missiles qui tombent régulièrement sur Israël, cet état d'alerte, tous les témoignages dans un instant sur Europe 1. Reste avec nous, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête. Europe 1.
Bonjour, c'est Christophe Ondelat.
Ondelat raconte.
En août 2018, à Frederick, dans le Colorado, Shannon Watts et ses deux petites filles de 3 et 4 ans disparaissent. Son mari, Chris, est vite dans le viseur. Il affirme qu'après une dispute conjugale, Shannon et les deux gamines ont trouvé refuge chez une amie, mais il est incapable de dire laquelle.
Ondelat raconte.
On se retrouve demain, de 14h à 15h, sur Europe 1.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien.
Quand Marine a été cambriolée, Amaury, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Donc du coup, j'appelle Amaury et mon mari me regarde et je lui dis « Mais t'inquiète pas, il arrive. » « Ah, mais il arrive là maintenant ?» Oui, je lui dis « Il arrive maintenant. »
Oui, on est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique.
Et il m'a accompagnée du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.